Nous allons donc passer à Terraform Mars de Takashi Miike. J'ai raté ma transition, mais il arrive tout de même. Alors on va pas rester très très longtemps. Est-ce que quelqu'un peut présenter le film, Elias?
Kefren, il veut le présenter.
Tu n'as absolument pas envie, donc Kefren.
Ah mais oui, j'ai envie de présenter. Et donc Terraform Mars, ça raconte. Donc Terraform Mars, c'est l'adaptation d'un manga éponyme qui raconte comment le gouvernement japonais, dans une tentative opportuniste de terraformation de Mars, envoie ses pires criminels qui est génétiquement modifié avec des insectes singuliers pour battre des cafards géants qui ont été envoyés quelques années auparavant pour terraformer Mars. Arrivé sur Mars, cette bande de lurons se rend compte qu'ils vont se faire décimer les uns après les autres.
Et c'est pas des cafards mal designés.
Et oui, et ils sont très...
Oh, oui, on a vu pire en termes d'effets spéciaux, je pense.
Non, mais le design, pas les effets spéciaux.
Et donc, c'est Takashi Miike qui adapte ce manga avec le budget le plus élevé de sa carrière, financé par Warner et Toho, je crois aussi. Et avec un casting 5 étoiles, Rinko Kikuchi, etc.
On doit voir. Et donc, 5 minutes en cumulé.
Non, 10 minutes, un truc comme ça. Et donc c'est un ratage complet à tous les niveaux. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un truc réussi dans le film. Ce n'est peut-être l'idée comme ça que Miike essaye de s'aborder avec quelques trucs qui ne sont pas dans le manga, comme par exemple qu'il fait remarquer que le plan est débile, ce que tout le monde a remarqué, mais les personnages le disent, ce qui est bien, ou du fait que les personnages se font massacrer de manière comme ça, sans empathie.
Je sais pas au moment de signer les contrats, les actrices, les acteurs, comment ils ont réagi en voyant la destinée de leur personnage. Déjà, je sais pas si ça allait passer une page.
Ouais, bah, peut-être que les fans de Game of Thrones...
C'est ça dans le manga, déjà. Ce sont les premiers tomes du manga, donc les personnages meurent de manière très brutale dès le départ d'Elias.
En fait, c'est ça aussi le problème du film, c'est que... Pour être un pigeon qui est mangé la hype du manga, qui a acheté 8 tomes d'un coup avant de les vendre le lendemain, c'est un très très mauvais manga. Le manga est très mauvais, il n'y a aucun personnage développé. Et en plus, le film, c'est juste sur le prologue qui prend un tome du manga. Le prologue, c'est peut-être la meilleure partie du manga. C'est dire, parce que c'est vraiment, au niveau de l'œuvre originale, hein, c'est très mauvais. De rien, pour moi, il y a un grand problème dans ce film et dans le manga, c'est le design des ennemis. Des cafards géants de Mars, qui ne sont pas crédibles une seule seconde. Que ce soit sur papier ou en CGI, leur design est extrêmement raté et rendent ses ennemis pas du tout inquiétants une seule seconde. Et quand tu fais un manga ou un film qui est basé sur un ennemi extraterrestre, tue un par un des pauvres criminels envoyés sur Mars, ce qui est presque un cliché au final, genre quelqu'un va sur une planète, t'as l'espèce de vie extraterrestre qui tue un par un les gens, voilà, ça fait trop peur, etc. Sauf que quand l'ennemi n'est pas flippant une seule seconde, qu'il est même drôle, qu'il est ridicule,
à la rigueur, ce qui est flippant, c'est qu'ils n'ont aucune expression et que d'un seul coup, ils te balancent une grosse droite, ils te décapitent, quoi. À la rigueur, ouais, ça peut être...
En rire, c'est un film, ça, c'est vraiment...
Bon, bah, je pense qu'on va passer rapidement sur, sur Terraform Mars, donc le dernier Takashi Miike, en attendant donc l'habitude de la film.
Oui, mais est-ce que c'est raté? Non, mais je veux juste poser la question. Est-ce que c'est raté? Adapter, faire une mauvaise adaptation d'un mauvais manga. Mais voilà, la matière première est à chier.
Exactement. Moi, je trouve que le point de vue de Takashi Miike est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il souligne le caractère complètement délirant et la nullité de ce qu'on lui demande de faire, en fait.
Bah oui, c'est hyper cynique, mais...
Il y a un côté très cynique, il y a un côté j'accepte la commande, j'accepte le plus gros budget qu'on m'ait jamais donné.
Parce qu'il avait, ne serait-ce qu'une petite liberté. Sa petite liberté, finalement, c'est pas juste ça.
En même temps, c'est de la merde, et il le dit même de manière... très explicite. Il y a même une scène où un des personnages qui est envoyé sur Mars se transforme en insecte géant et pète à la gueule face caméra du spectateur. Donc c'est vraiment ça. Dire j'ai un matériel de merde, je fais un film de merde et je vous emmerde. Enfin, je pense que c'est vraiment le propos au sens propre. Enfin,
c'est
un côté un peu intéressant quand on le contextualise par rapport à l'attitude de Takashi Miike. Le film est raté, hein, quand même. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais il y a cette petite liberté que se permet Takashi Miike par rapport à l'industrie du divertissement japonais actuel qui est... Qui,
la question est de savoir, est-ce qu'il a accepté cette commande pour pouvoir réaliser d'autres choses?
Non.
Non,
je crois que maintenant.
Il fait des commandes. Mais il y a quand même un plan un peu pas, enfin un peu cool qui m'a fait croire une demi-seconde. C'est le moment où il déploie les drones là, où t'as un espèce de plan, c'est où qui suit les drones. C'est un moment t'as un truc qui balance dès qu'ils arrivent sur Mars, ils balancent une espèce de robot de drone avec un espèce de plan un peu cool, tu vois, où tu dis bon, ça va être débile, mais au moins peut-être pendant les combats et tout, va y avoir des plans un peu anime manga. Il va aller complètement dans le délire. Bon, les CGI seront dégueulasses et tout, mais au moins ça va partir dans tous les sens et tout. Même pas après, en fait, c'est filmé platement et rien quoi.
Alors, on va peut-être rester, comme on est sur les mauvais films de l'étrange festival, on va pas dire que c'est une mauvaise édition, mais comme dans tous les festivals, il y a des tentatives comme ça qui sont un peu ratées. Un des événements, on en parlera à la toute fin, d'ici une vingtaine de minutes, on va essayer d'être un peu plus concis sur les films. Un des événements du festival, c'était Bodyguard de Wei Song, donc qui était attendu comme le nouveau prodige du cinéma martial chinois, et le film... Qui veut en parler, Martin ?
Bah, écoutez, c'est très marrant parce qu'il a été programmé à peu près 10 jours après la nuit de Néerlande. Il n'aurait presque plus fini. Voilà. Comment dire ? C'est un film qui est un peu embarrassant à regarder, mais qui n'est pas désagréable. Mais embarrassant dans le sens où c'est un ego trip énorme. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un Wei Song qui occupe à peu près tous les postes sur le film et qui pourrait jouer tous les acteurs s'il a eu l'opportunité de le faire. Et qui en gros fait un film revanchard. C'est-à-dire qu'il a déjà réalisé un premier long métrage qui s'était viandé au box-office. Et. Il a décidé de ne pas se laisser abattre, il est parti dans la toundra, et il s'est entraîné avec des ours, et il est revenu, et il s'est dit, ça y est, je vais faire le plus grand film d'arts martiaux des 20 dernières années.
C'est pas comme ça qu'on apprend à filmer, généralement.
Oui, voilà. Mais je pense que lui, il fait un peu tout dans le désordre, c'est ça le gros problème. C'est que... Il faut le reconnaître qu'il a des vrais talents martiaux. Voilà, il est souple, c'est un bon chorégraphe et tout ça. Mais par contre, tout ce qui est du travail d'écriture, de mise en scène, de ce qui se passe derrière la caméra, lui est totalement inconnu. Et il oublie l'une des composantes essentielles de ses prédécesseurs, c'est ça, Jackie Chan, Wei Moping et tout ça, c'est qu'ils ont tous commencé comme assistants. Comme acteur, comme assistant, cascadeur et tout ça. Lui, il brûle toutes les étapes et il fait tout. Et du coup, on a à peu près l'un des films les plus ridicules de l'étrange festival cette année, avec des scènes cuculapralines, mais comme rarement on l'a vu.
C'est dommage parce que c'est surtout ça qu'on retient du film, d'ailleurs. Mais oui, les scènes ridicules, et c'est pas les scènes d'action.
Non. Les scènes d'action, en plus, elles sont desservies par un montage qui est quand même un peu hasardeux. C'est pas très bien découpé. Il y en a une qui est pas mal, où il se bat dans un hangar avec quelques types, et c'est latter la gueule, c'est pas mal. L'autre chose qui est amusante, c'est que bon, voilà, il pompe à tout le monde. C'est là que ça commence, c'est du Stephen Chow. Après, on a un peu de Jackie Chan, on a un peu de Donnie Yen, on a un peu de tout. Voilà, il s'approprie beaucoup de gimmicks visuels qui ont été développés ces 20 dernières années. Vous savez, c'est pas grand chose. Mais au final, on a un truc qui est assez rigolo. Mais on a. Voilà, c'est juste un film assez rigolo.
Lila.
Fondamentalement, ça m'a fait penser à Highlander. C'est
la série ou
le film, en partie parce que les scènes de romance se rapprochaient.
La scène Titanic, là, elle est bien.
Voilà, mais après, voilà, et un petit peu pareil dans la logique qui pousse à le regarder, c'est que c'est pas forcément une réussite. Malgré tout, il y a un petit côté sympathique et on le regarde pour bien se marrer face aux échecs du film, mais avec bienveillance malgré tout.
C'est donc ça, on est dans le nanar. En fait.
Oui, c'est exactement, c'est
nanar. Enfin, même maintenant, on peut le regarder comme un nanar.
C'est ça.
Alors, on va rester sur le cinéma d'action. L'autre événement d'action, c'était le retour d'Iko Uwais avec Headshot des Mo Brothers. Nicolas, en attendant ta critique, à bientôt, peux-tu nous présenter le film?
Le pitch est très simple. C'est le personnage d'Iko Uwais qui est retrouvé sur une plage... Et amené à un hôpital où il rencontre une infirmière avec qui il va se lier d'amitié, peut-être plus.
Ou plus si affinité.
Plus si affinité.
Mais
le fait important, c'est qu'il a perdu la mémoire. Et en parallèle, on découvre un espèce de méchant, notamment dans une scène d'introduction assez forte.
Très méchant.
Très méchant. qui avec son espèce de groupe de tueurs là, qui ressort de, donc qui s'évade de prison et qui veut évidemment revenir au top.
Au milieu des gangs.
Voilà, c'est une légende dans le milieu des gangs, ça, tout ça. Et donc voilà, et donc forcément, sans dévoiler plus sur l'histoire, il va y avoir un lien entre Echo Wise et ces personnages-là. Pas très difficile à deviner. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un film des Mo Brothers qui avait fait Killers, qui était déjà à l'étrange il y a 2 ans. Et que j'avais beaucoup aimé, certains ici non. Mais en fait, c'est vraiment un film qui s'inscrit dans tous ces films d'action des studios indonésiens qui sont sortis ces dernières années, donc avec les films de Gareth Evans notamment, Meranto, les Oreds.
Donc les films de Gareth Evans.
Mais voilà, on a l'impression, avec ce film-là qui s'inscrit vraiment dans cette lignée, on a l'impression que ce style de film d'action va se développer de plus en plus dans les années à venir et que peut-être il y aura d'autres réalisateurs qui vont être produits par ces studios et qui vont s'essayer à ce genre de film. Mais c'est un peu le problème, c'est que là, les Mo Brothers, moi je vois plus un erzret de film de Gareth Evans qu'un vrai film des Mo Brothers. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes, enfin pas les mêmes chorégraphies, mais le même système. Ça ressemble vraiment à un jeu vidéo par moment, comme le premier The Raid. C'est la Westing qui s'occupe des chorégraphies, donc tu retrouves un peu la même chose. Même si là, compte tenu de la condition du personnage de base, le fait qu'il a perdu la mémoire, forcément c'est pas aussi construit au niveau des chorégraphies progressif. Et c'est un peu le problème aussi du film, c'est que à aucun moment ça peut qu'être à égalité avec The Raid, quoi. C'est on sent qu'il y a eu peut-être moins de temps de préparation pour la mise en scène, pour la chorégraphie. Le problème aussi du film, c'est que contrairement à The Raid, ça essaie de refaire la construction de The Raid 1, une espèce de jeu vidéo, surtout dans la deuxième partie, où tu affrontes chaque personnage jusqu'au Big Boss, entre guillemets. Sauf que dans The Raid 1, ça allait à l'essentiel, quoi. C'était quasiment que de la baston non-stop, ouais. Ça parlait pas, ça se faisait sur la gueule. Là, tu as l'impression que comme il n'y a pas de séquence entre les scènes, c'est scène de combat sur scène de combat, et ben il met des pauses au milieu des séquences de scènes de combat. C'est-à-dire que chaque scène de combat s'éternise un peu trop et il n'y a pas vraiment de crescendo au final. Même la dernière scène de combat, ce n'est pas forcément la meilleure. C'est assez spécial comme film au niveau du rythme.
C'est un peu décevant. Ouais, mais justement, au niveau du rythme, Timo Tanjou, justement.
Tianjoutouk.
Oui, et en plus, c'est mon pote. Et donc, oui, il a dit qu'en fait, il voulait revenir au style des Hongkongais, en fait, qui mettait un mélodrame dans les films d'action, justement. Ouais.
Là, c'est même c'est pas dans le film d'action, c'est au milieu des scènes d'action, quoi.
Il a dit que c'est ça, en fait, que quand on regarde Hardball ou les choses comme ça, il y a quand même un mélo
oui.
au centre
des
films
d'action.
C'est quand ça part, quoi. Film d'action, oui, voilà. À l'époque, chez John Woo.
Oui, voilà, il a dit c'est à ça qu'il voulait revenir, en
fait. John Woo, une fois qu'on est dans l'action, on est dans l'action, quoi.
Oui, mais là aussi, attends, la scène du commissariat.
Oui, mais c'est la meilleure scène du film. Et après, le problème, c'est que c'est dans la première partie.
Alors, après, c'est Lila.
Juste pour réagir, après la scène de la plage, c'est assez interminable quand même.
Alors, oui. La scène de la plage.
Mais... Pourtant, il y a Julie Estelle.
Voilà.
C'est à la
non, pardon. Non, mais voilà, tu... Alors, maintenant, je ne sais plus qui parlait, mais là, je pense que c'est une scène qui arrive relativement vers la fin, où il se met face à quelqu'un que vraisemblablement il connaît, ce qui donne lieu à flashback, histoire, alors que effectivement, il y a baston, tiens, on discute un peu, baston, on discute un peu, et ça devient un petit peu lourd à la fin. Après, globalement, je suis assez d'accord avec ce que disait Nicolas, c'est un petit peu un erza de The Raid. C'est un petit peu ce qui m'avait dérangé aussi dans leur précédent film Killers. C'était pour la partie, du moins, au Japon, avec le tueur en série, j'avais l'impression que c'était un petit peu, on va reprendre tous les codes de base du thriller coréen ou surtout, et on va les appliquer, mais sans réussir vraiment à les absorber et à en sortir quelque chose qui soit personnel. Et là, j'ai un petit peu eu le même ressenti sur Red Shot, qui donne quand même un film de bonne facture.
Voilà. Alors après, les scènes de combat, enfin, il y a des séquences de chorégraphie de combat qui démontent tout aussi, un peu comme dans les Red. Il y a une séquence notamment de baston entre Iko Uwais
et un autre acteur.
Et comment il s'appelle là, celui qui joue Baseball Batman dans The Red. Qui est assez impressionnante, quoi, parce que c'est vraiment
la
manière d'utiliser le décor est vraiment impressionnante pour le coup. Donc c'est quand même un très bon film d'action, quoi.
Olivier ?
Oui, moi c'est un film que globalement j'aime bien, même si je trouve que sur sa durée il est un peu lassant. Et je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux dans sa première partie que dans sa deuxième partie. Parce que je trouve que justement on parlait de l'intervention du mélodrame et l'influence de John Woo, on la ressent bien dans la première partie. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Je trouve que l'intrigue sentimentale s'installe plutôt bien. Et dans la deuxième partie, là, pour le coup, on a l'impression que les scènes de dialogue sont un peu des prétextes entre des scènes de combat qui sont répétitives. Par contre, ce qu'il faut vachement dire, c'est que le film est quand même hyper violent. Moi, je l'ai trouvé plus violent que The Raid. En fait, je trouve
le 2, mais
c'est un film catégorie 3, quoi. Enfin, chaque coup fait super mal. Le film frappe quand même fort. La scène de l'autobus est quand même particulièrement impressionnante. Alors, je trouve que le film est vraiment fort dans sa mise en scène, c'est dans son découpage, mais sur la durée, il est quand même assez répétitif.
Disons que il y a aussi un léger problème au niveau du montage pur, c'est-à-dire que des fois, on a l'impression que il met trop de temps à couper entre chaque coup de feu, machin. Et des fois, t'as l'impression que le mec pourrait tirer 150 fois, mais il attend 10 ans avant de tirer pour le temps que Iko Uwais esquive ou se mette en place, machin. Et même dans les coups, c'est un peu pareil. Alors que dans The Raid, on n'en ressent pas du tout ça, quoi. C'est vraiment millimétré à la seconde près, quoi. Chaque coup, chaque moment de coupe et tout, c'est vraiment...
Elias.
En fait, Nicolas a un peu parlé du rythme, du moins la scène comme près de la scène du commissariat. En fait, pour moi, c'est un peu le problème du film, c'est que le film climax au bout d'une heure. Et qu'après il reste une heure à tenir.
Ouais, c'est ça.
Et en fait le film monte en fait pour moi, comme tout le monde a dit, le film marche très bien pendant le début parce que le film monte en crescendo, etc.
Bah, t'as après, la séquence de climax, déjà.
T'as ce climax au milieu du film. Et après tu as une heure où il tente de refaire pareil mais il n'y arrive pas. Du coup ça laisse comme un soufflé, ça fait.
En
ça,
fait il enchaîne les climax mais c'est pas aussi pas.
Cette aucun n'est niveau, aussi bon que, voilà, que, voilà, que cette scène qui est au milieu du film. Et ça plus le fait qu'il y a quand même. On a dit, ok, il y a un mélodrame, etc., mais on ne dit pas à quel point le mélodrame est mal fait quand même. Personne ne l'a dit, mais la scène finale, la dernière scène du film, avec une espèce de pop indonésienne en fond, c'est, je pense, une des pires scènes du festival. Ouais. Pas un pire film, parce que le film est très correct, hein, c'est un bon film d'arts martiaux, etc. T'en sors un peu à sauver parce que c'est un peu long et au bout d'un moment, t'as la fin. Le film n'arrive pas à se renouveler, c'est un peu bruyant pour rien vers la fin, mais c'est pas très grave, c'est un film super, super agréable à regarder, c'est un bon film d'arts martiaux. Mais la dernière scène.
Ah, c'est vrai que l'épilogue, mon cerveau l'a zappé. Maintenant, je m'en souviens.
Mais elle est bien,
c'est une foute de goût. Ça fait plus d'une heure qu'on est sur l'étrange festival, donc on va aller plus vite sur les films qui restent, voire même faire un bilan un peu général, mais c'est vrai qu'il y a un film qui
on n'a pas parlé de The Tenant d'Auster.
Il y a un film qui nous a aussi marqué, et on a parlé de catégorie 3 tout à l'heure. Merci Olivier. Et du coup, c'est The Tenant d'Auster, effectivement, d'Adam Sway, qu'on voulait évoquer, Nicolas.
Ce film, c'est tellement une claque énorme. Et pourtant, dans ce film, il y a tout qui peut déplaire au cahier du cinéma, par exemple. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui fait son premier film, qui n'est pas cinéaste de base, quoi. Je ne sais plus d'où il vient, mais c'est un chanteur. Et le mec, tu sens qu'il a des dizaines de références cinématographiques et veut tout mettre dans son premier film, comme beaucoup de réalisateurs dans leur premier film. Et même si, bon, ça, l'influence notamment de David Fincher, qui est évidente, qui est même cité directement à certains moments, et dans le film quasiment tout le temps, mais le mec il arrive quand même à créer un espèce de monstre gigantesque sur la perversité humaine à travers de espèces de huis clos dans cet hôtel où le personnage joué par Simon Yam c'est pas un hôtel d'ailleurs, c'est une espèce de grand bâtiment où il loue des appartements. Et donc, voilà, il va s'amuser avec des caméras de surveillance à espionner ses locataires et va influer sur leur vie pour leur faire commettre des choses atroces. Et à partir de là, c'est vraiment une espèce de d'orgie de la perversité humaine qui se déploie devant nos yeux. On est à des moments de malaise incroyable et en même temps, ça a tout un espèce de décalage ou humoristique tellement ça part loin. Et je trouve que même si, bon, au niveau de l'image, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment, tu ressens les références forcément, il arrive quand même à installer une espèce d'atmosphère, de puissance de l'image qui est assez impressionnante pour un premier film. Et voilà, ça, je trouve ça c'est une belle claque, quoi.
Quand tu parles d'ailleurs de Fincher, c'est marrant parce que c'est Fincher sous influence de Hitchcock. Donc voilà, on retrouve des influences. Enfin,
c'est influence par influence, quoi.
À partir de cette thématique du voyeurisme. Voilà. De ce qu'est un voyeur sur l'œil qui est en train de regarder donc les choses. Elias, vas-y.
Mais en fait, ce qui est encore plus génial, je trouve, pour revenir à ça, c'est que j'ai réussi à me trouver en ligne, pas forcément très légalement, une copie en anglais du roman original, que j'ai feuilleté très vite, hein, sans lui entier, parce que c'est assez long. Enfin, c'est un roman, quoi. Mais. Je lis des romans, mais là, j'ai pas lu. Voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bref. Et en fait, dans le roman, il y a une grande partie d'explications sur la psychologie du personnage, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il trouve ça. Il y a une nouvelle fin qui est en rapport avec ça, mais qui est 10 fois plus développée, qui explique pourquoi est-ce que de délire psychiatrique, etc., un peu lourde. Et là, je sais pas si c'est Adam Sway ou si le scénariste, je sais pas si Adam Sway a aussi écrit le film, je suis pas sûr, mais si c'est le cas, c'est vraiment génial.
C'est Guy Lasco qui a adapté
son propre bouquin, il a coupé tout ça, et ça rend le film totalement arbitraire. Et c'est génial.
Mais bien que la fin soit déterminée, soit légèrement facile, et que je crois qu'il avait dit qu'ils avaient beaucoup hésité à mettre cette fin.
Entre parenthèses, il parle.
C'est pas cette version.
Oui, dans l'interview, je lui ai fait la remarque par rapport à sa fin qui est quand même assez explicite, et il a expliqué que d'une part il savait très bien que le public occidental et notamment le public de festival pouvait ou apprécier les fins ouvertes, mais il ne voulait pas qu'il y ait trop de différence avec la version de Kevin Wan, donc il a supprimé certains plans. Voilà, la version donc taïwanaise est plus longue, plus explicative, parce que le public chinois, ils veulent tout comprendre de A à Z.
Et du coup, on peut lire donc une interview d'Adam Tsui sur le site de Martin, et il parle aussi de différence entre le roman et l'adaptation et le film. Olivier, je crois que
tu n'es pas forcément d'accord avec parce que là,
c'est ton enthousiasme général,
parce que moi, c'est peut-être. Pour moi, je suis pas lecteur des cahiers du cinéma, mais c'est pour moi c'est un des pires films du festival. Non, je trouve que c'est totalement. Moi, c'est un film qui m'a agacé du début jusqu'à la fin dans son côté tape à l'œil dès le départ, dans sa façon de filmer les immeubles où je me disais que j'avais pas vu ça depuis les clips de Massive Attack. Et ensuite, j'ai trouvé que l'esthétique était affreuse, que l'acteur était lâché en roue libre. J'ai trouvé que c'était plus Luc Besson en train de faire du Parchanwalk. C'est un film qui m'a gonflé, mais vraiment on avait l'impression qu'au bout d'un moment le film était même destiné à m'agacer jusqu'au moment où l'acteur se met à faire le chef d'orchestre comme Gary Oldman dans Léon. Je peux pas en dire plus parce que. Le film m'a vraiment. Je suis sorti un peu agacé, je pense.
Bon, Kefren, pour conclure sur notre plus positive sur Ten of
Dunster. Je veux juste technique et dire que la mise en scène est bien, car justement, comme David Fincher, il utilise les effets spéciaux pour pallier justement l'espace, enfin, ce que la caméra ne peut pas voir physiquement, et comme dans Panic Room, comme ça, l'espace devient un personnage en soi, comme ça, l'immeuble.
C'est dingue parce qu'à la fin du film, on sait exactement, est-ce qu'il a, pour moi c'est réussi, on sait exactement où est telle chambre, à tel étage, à tel endroit, par rapport à quelle porte est à quelle en face de l'autre et tout. Et là, il a réussi sa spatialisation dans la mise en scène.
Travail de CGI de studio.
Bon. Nous allons faire. Pour conclure sur cette édition 2016 de l'Étrange Festival, deux tours de table. Dans le premier, je vais vous demander quel est le film asiatique ou non asiatique qui vous a marqué et qu'on a oublié, qu'on n'a pas évoqué dans les dernières minutes. Et ensuite, on va faire une conclusion et un bilan de l'Étrange. Donc, Kefren, quel serait le titre dont tu as envie de parler et qu'on n'a pas encore évoqué?
Moi, ce sera un film pas asiatique, et un film pas d'animation non plus, qui est Magic Robot non plus. Et c'est donc le Escalante, la région sauvage, que j'avais aimé parce qu'il arrive à, comme ça, à prendre l'univers de Zulawski dans Possession et des choses comme ça, et à le transférer dans le Mexique contemporain, à en faire une problématique contemporaine autour de la sexualité et du désir dans le Mexique contemporain. Et la mise en scène, est, même s'il est un peu en rupture avec ses précédents films qui étaient très anukiens, si on peut dire, là, la mise en scène est plus vive et plus sensuelle, et etc. Et c'est vachement intéressant, en fait. Pour moi, c'est un grand film mexicain, La Région Sauvage.
Bon, on pourra en parler dans une, quand il sortira en salle, dans une section hors Asie. Martin, quel est, d'après toi, l'oublié du festival ce soir?
Je suis en train de chercher, mais en tout cas, il y a beaucoup de mauvais films que j'ai vus cette année. Je trouve vraiment que c'est pas un bon cru, hein, 2016. C'est très timoré, il y a eu beaucoup de mauvais films. Alors après, il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a aussi sur le marché. Et je trouve ça assez inquiétant pour le cinéma de genre. J'ose espérer que nos amis du PIF auront peut-être plus de... de chance, parce que là des fois il y avait certains films, c'était parce que ça, il y a 2-3 personnes en cuir ou
Dark Circus.
Mais même voilà des choses comme comment dire The War of Everyone,
ça c'est bien, mais
c'est nul ici. Non, c'est vraiment très mauvais, il y a aucune mise en scène, c'est, les acteurs sont plus mauvais que les uns que les autres, il y a pas de budget, pas d'idée, rien du tout. Il y a pas mal de films, vraiment, pour en ressortir, on était désespérés, quoi. Et finalement, oui, moi, j'ai retrouvé, finalement, un petit peu d'espoir dans le cinéma asiatique, heureusement. Et j'en ai déjà parlé, What Woman is the Wind m'a beaucoup enthousiasmé, malgré ses petits défauts. Mais bon, en dehors de ça, il y a si, quelques classiques voilà, qui m'ont plu, mais bon, voilà.
Michael.
Le Peter Weir, voilà, qui était pas mal du tout.
Basket Case, non?
Oui, les Basket Case 1 et 2, voilà, Frankenweiler. J'ai pas revu Frankenhooker parce que j'ai vu 2-3 fois et que j'aime beaucoup. Bon, je suis pas allé voir les Chouine Mamoura parce que malheureusement j'ai pas eu le temps. Et les voir en salle 30, bon, voilà. Voilà, j'ai l'intention de les revoir dans de bonnes conditions très prochainement.
Bah, du coup, Martin, comme tu as un esprit très synthétique, on va faire le film oublié et un bilan par personne. Du coup, je reviens à Kefren. Est-ce que tu es d'accord avec Martin, d'après ton choix du film oublié, sur ce bilan du festival qu'a dressé Martin?
Je suis d'accord dans la globalité que c'était pas très très bon. Enfin, il n'y a aucun film qui nous a vraiment transcendé, il n'y a rien. Et c'était surtout des films qui étaient corrects ou bons, mais jamais quelque chose de très exubérant, de passionnant.
Sauf anti-porno.
Sauf anti-porno. Voilà.
Lila, ton avis sur cette édition, et si tu devais retenir un film, toutes sélections confondues?
Alors, pour moi, un film à retenir, bon, il y en a surtout trois, mais un sur lequel je vais m'attarder un peu, puisque l'un d'entre eux est The Tenant Downstairs, dont on a déjà parlé. L'un des autres est Psychonautas, dont je pense que Nicolas a envie de parler. Moi, j'ai également beaucoup aimé.
Oui,
certainement. J'ai également beaucoup aimé le nouveau film de Cavan, Ali Pato. Alors, c'était pas pour moi une grosse claque comme avait pu l'être Round Earth pour moi l'an dernier, qui était aussi le film par lequel je l'ai découvert, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Là, bon, j'étais un peu plus préparée, donc. Je l'ai aimé, mais quelque part, voilà, j'ai pas de surprise là-dedans. Je l'ai même un peu moins aimé, parce que bon, la photographie, bien que magnifique, il n'y a pas cette atmosphère qu'avait apporté Christopher Doyle dans le précédent film.
Christopher Doyle, bourré.
Certes.
Christopher Doyle, tout court, en fait.
C'est ce que c'est que Christopher Doyle sombre, déjà. Voilà.
Et non, après, il y a un petit côté très provocateur qui m'a un peu dérangé dans Ali Pato, qui n'était pas présent dans Round Earth. Mais d'un autre côté, quand on voit la situation politique aux Philippines aujourd'hui, quand on voit la situation catastrophique et les meurtres à Manille, dans ce contexte-là, alors est-ce qu'il y avait une volonté politique de la part de Cam? Il est permis de le penser, mais après, c'est pas... Voilà. Là, on va pas rentrer là-dedans, je ne suis pas dans sa tête. Mais effectivement, c'est intéressant... vis-à-vis de ce regard-là. Après, plus globalement sur l'édition, je dirais que c'est une édition qui m'a peut-être moins marquée que les précédentes. On avait deux rétrospectives que j'ai trouvées très intéressantes sur Zolowski et Imamura. Donc bon, ça, c'était effectivement des moments très intéressants du festival, mais au niveau du 109, au niveau des films qui étaient présentés cette année, j'ai peut-être eu moins de coups de cœur. Le contrepoids, c'est que j'ai eu peut-être aussi moins de films qui m'ont vraiment donné la nausée. Mais bon, c'est aussi peut-être parce que j'ai peut-être mieux trié en amont. Globalement, c'est une édition où... bon, je ne vais pas dire qu'elle m'a laissée indifférente, mais en tout cas, elle m'a beaucoup moins secouée. Par exemple, que l'édition de l'an dernier, que j'avais trouvé très haute en couleur. Mais voilà, c'était une... malgré tout...
Il n'y avait pas Baloubali, quoi.
Voilà, il n'y avait pas Baloubali.
Film de clôture était atroce. Il faut bien dire ce qu'il y est.
Alors, c'était quoi le film de clôture?
Le mariage de raison de Machin et Bidule.
The Marriage of Reason and Squalor, je pense.
Quel accent, ça?
Et par exemple, Bill Clinton, qui Frédéric Ton a accueilli mon grand copain, le grand génie, machin chose. C'est une merde, comme rarement je l'ai vu. C'est dessiné avec les hippies, un gamin de 12 ans a fait mieux. C'est même pas...
Non, c'est bien.
Non, non, c'est très très moche.
Mais c'est son style.
Non, c'est pas son style, justement. C'est pas du tout son style. C'est pas lui qui a fait les caractères design et compagnie. C'est vraiment atroce. Il s'est animé vite fait à la palette graphique, mais c'est vraiment un truc de... Voilà, un gamin qui a fait découvrir l'animation.
Ça a son charme.
Il ferait mieux que lui. Et le scénario, c'est pas possible, quoi.
Olivier, quel est le... Alors on va commencer, on va revenir à du positif, du coup, avec un film oublié que tu as aimé.
Oui, un film oublié qui n'est pas forcément un coup de foudre, mais j'ai beaucoup aimé Interchange. Un film qui n'est pas parfait, qui a beaucoup de naïveté, mais naïveté veut aussi dire beaucoup de candeur. Je trouve qu'il y a... Pour le coup, on recherche de la singularité dans l'étrange festival, on en a peut-être pas assez. Je trouve que l'étrange festival, son gros problème, c'est que les films sont souvent pas assez étranges, justement. Et Interchange, c'est au moins un film étrange. On retrouve un peu des similitudes avec des films dont l'état d'esprit, comme La Forêt d'Émeraude, dans le rapport homme civilisé, retour des traditions ancestrales. Moi, le film, j'ai cru voir parfois un espèce de Wolfen indonésien, dans le côté... c'est le retour de la manière dont les traditions mortes reviennent sur la ville pour effectivement reprendre une certaine emprise et se venger. Et le film m'a beaucoup ému dans l'ensemble. Il est loin d'être parfait, mais c'est un film qui m'a vraiment attrapé. Voilà. Et sinon, si je peux rajouter un deuxième coup de foot pour le coup, parce qu'il sort, moi, Jig Robot est un film qui m'a beaucoup plu. Espèce de film d'anti-héros, super-héros, de super vulnérable héros, et un film qui est très social aussi. Enfin, un film que j'aime
voir. Version Camorra.
Et donc, j'ai un peu parlé avec ça de ce que j'avais pensé de la dernière édition. Moi, c'est une édition qui m'a plutôt plu. Non pas par coup de foudre, mais parce qu'il y a des... Je suis sorti des films avec l'impression d'avoir vu des choses intéressantes, et peut-être plus que l'année dernière pour le coup. Moi, l'année dernière, ça m'avait laissé plus froid. Bon, je trouve que c'est plutôt une bonne édition. Mais j'aimerais bien que les programmateurs pensent un peu plus à requalifier la notion d'étrange, par contre.
Mais est-ce que c'est pas aussi un problème qui vient de la cinématographie internationale, qui est de plus en plus normée, et où il est de plus en plus difficile de trouver des films en faisant le tour des festivals qui sont vraiment dans les marges, et donc étranges?
Bah déjà, le truc, c'est qu'il y a ton auto en même temps, et qu'il y a une espèce de jeu entre les deux festivals, avoir les mêmes films un peu avant, enfin il y a un problème aussi par rapport à ça.
Parce que Wet Woman in the Wind était à Toronto, je crois.
Enfin, il y en a plusieurs qui étaient à Toronto, qui sont passés. Grève aussi. Ouais, Venise.
Et Venise aussi.
Mais c'est un peu avant Venise. Mais voilà, donc après, par rapport à ces festivals qui se déroulent en même temps, je trouve qu'il y a peut-être une obligation, enfin, de pas trop s'éloigner des standards.
Ouais, ils ont perdu leur film d'ouverture une semaine avant le festival, quand même, c'était chaud. Hein.
Mais c'est vrai qu'on se pose une vraie question sur, effectivement, y a-t-il encore vraiment beaucoup de cinéma étrange maintenant, quoi, effectivement.
Il y a un film qui avait, je n'ai plus le titre en tête, mais un film qui a eu beaucoup de succès au NIF, et que apparemment ils n'ont pas voulu passer, alors que c'est typiquement le film qui aurait pu être vraiment étrange, enfin qui était dans la terminologie d'étrange, quoi, mais apparemment Frédéric Tan n'a pas du tout aimé le film. Et du coup, c'est un film qui a eu un certain succès au NIF et qui n'est pas passé. Je ne me rappelle plus du titre exactement, mais voilà, ça peut être un. C'est un peu peut-être Frédéric Tan, enfin, pas être trop critique, mais il y a peut-être en haut lieu des. Problème au niveau du...
C'est possible.
Ah, c'est aussi des goûts personnels, j'imagine. Mmh.
Peut-être moi, Jodorowsky est plus d'autres du genre.
Jodorowsky,
c'est le pas pain.
En soi,
je me souviens qu'il y avait quelques années, il y avait une carte blanche à Mathieu Seller, le cinéaste suisse, qui est pour le coup très très étrange, et il a fait un long métrage il n'y a pas longtemps, qui est aussi très étrange, et pour le coup, je crois que Frédéric Tan l'a refusé parce que le film ne lui plaisait pas. Quoi. Mmh. Donc... voilà.
Après, ça peut être normal au niveau de la sensibilité de Frédéric Tan, des programmateurs, etc. Après, c'est vrai qu'on peut se demander, en parallèle, quand un film comme The Blair Witch Project, est présenté en avant-première à l'étrange, deux semaines avant la sortie, est-ce qu'il y a une vraie nécessité de le présenter dans le cadre d'un festival ?
Même Grève, qui est un très bon film. Étrange, qui est un très bon film. Enfin, moi, j'ai beaucoup. Grave, c'est un très bon film, mais. Enfin, c'est plus une avant-première au sein de l'Étrange Festival qu'un film de l'Étrange Festival, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont leurs deux avant-premières un peu de films qui vont sortir
tout le temps, tous.
Ouais. Tous les festivals, d'ailleurs, c'est pareil, FFCP, ils ont toujours deux films
qui ont déjà. Alors, Nicolas, on va revenir à la question, est-ce qu'il y a un film dont on a omis de parler qui est un coup de cœur pour toi ?
Bah, Psychonautas, donc il en a parlé, c'est un film d'animation donc de Alberto Vázquez et Pedro Rivero, adapté déjà d'un court-métrage Bird Boy, qui est un des personnages du film. Et comment dire, c'est un film d'animation pas pour les enfants, parce que c'est vraiment très noir, très dépressif. D'ailleurs, on ne ressort pas du film en ayant le sourire aux lèvres, ça c'est sûr. Et quoi qu'on dise, en fait, ça se passe sur une île où il y a... Enfin, alors, les personnages sont des personnages animaux, quoi. Et ça se passe sur une île qui a subi une catastrophe nucléaire. Et tout ce que pensent les personnages à faire, c'est, enfin les trois personnages principaux notamment, c'est partir de cette île, à s'évader, et ils ne savent pas comment faire. Et donc tu vois, en fait, c'est un espèce de film choral où tu vois tous les personnages de cette île, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais tous les personnages de cette île vaquer à leurs occupations avec des... Et notamment ce Bird Boy qui est un espèce d'enfant oublié, symbole un peu de cette dépression. Voilà, donc c'est un très beau film, très, très violent moralement, très dépressif, mais assez magnifique, et avec des passages un peu poétiques, que ce soit un peu morbide ou même un peu lyrique, un peu merveilleux, un espèce de mélange comme ça qui est assez magnifique. Et je le conseille de le voir, parce que c'est un film qui va forcément vous bouleverser quelque part. Mais c'est aussi un film qu'il ne faut pas forcément voir quand vous êtes pas en état. Quoi. C'est pas un film qui va vous redonner ses dents aux lèvres. Et c'est sûr que si vous êtes déjà dans un état de dépression de base, ça ne va pas améliorer les choses. Quoi.
Non, mais nos éditeurs ne sont pas en état de dépression.
Non, ils nous écoutent, vous l'avez.
Juste un petit détail, c'est adapté également de son roman graphique, son roman, hein, et qui est paru Psychonaute, donc qui est paru traduit en français.
Oui, après, ça fait un court-métrage, ouais. Bird Boy. Voilà.
Tu veux rajouter quelque chose sur l'édition en général, Nicolas?
Bah, en fait, moi, j'ai pas trouvé ça si moins bien que... Bah, c'est juste qu'il n'y a pas eu Balou Bali 2, quoi. C'est juste le truc qui manque. Ce sera l'année prochaine, on espère, mais c'est sûr que le film de clôture à la place, c'est pas de figure. Mais non, mais en fait, il y a toujours son lot de bouse.
Il y avait Le Profond Désir des Dieux.
Que le seul Imamura que j'ai pas vu.
Bah, il fallait sauter la clôture. Voilà.
J'aurais arrêté de voir ça, franchement. Mais j'aurais voulu remonter dans le temps et tout. Mais c'est vrai que je me suis fait la rétro Imamura, que je ne connais pas du tout. J'ai même pas vu ses films récents. Et là, c'était surtout ses films des années 60, enfin ses premiers films dans les années 60, 70, quoi. 60, même, je crois qu'il y a un des films qui est
un peu.
Et que 60. Bon, c'est pas grave. Et ben, enfin, je trouve que c'est j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est un cinéaste classique, mais dans le pur sens du terme, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des histoires qui peuvent parler à tout le monde, des histoires de mafia, des histoires de personnages familiales et tout. Et en même temps, t'as des séquences d'une beauté absolument renversante. Je pense notamment à Cochon et Cuirassé, sa séquence finale avec les cochons qui sont libérés dans la ville, c'est assez incroyable. Et de voir ce genre de cinéma, que ce cinéma a été fait à l'époque, on n'en fait plus ce genre de cinéma aujourd'hui. Et voilà, moi j'ai eu une belle découverte et j'ai vraiment envie d'approfondir du coup. Et du coup, j'ai pas vu Le Profond Désir des Dieux et je m'en veux beaucoup et je vais rattraper ça le plus vite possible. Et sinon, pour le reste, bon, il y a vraiment pas mal de... Bon, il y a pas mal de bouse, hein. Dark Circus, Baby Bump...
C'est bien toujours de finir sur une note négative.
Regarde The Flash, hein, Elias, on va en parler.
Alors Elias, toi, t'es un film qu'on n'a pas encore évoqué.
Ouais, alors justement, j'ai parlé d'un film dont on vient de parler, qui n'est pas un bon film. Je reviens d'avance, ce n'est pas un bon
il
film.
Il a mis 7 sur 10.
Mais c'est un film dont j'ai adoré la séance, parce que on sortait de 4 jours de Trans Festival, du coup, attends, je fais un peu mon bilan. Assez terne, j'ai trouvé, à part Antiporno, bon, j'attends de parler parce que j'en parle à chaque occasion. Voilà. À part Antiporno, j'ai trouvé en fait les 3 jours d'après assez terne, dans le sens que c'était des films sympas mais sans plus, ou alors un peu décevants, ou alors rigolos, mais voilà. Et puis là, il y a ce film mexicain qui est un premier film de Emiliano Rocha Minter, qui est un nouveau réal dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. La séance, je n'avais pas envie d'y aller. J'étais avec Catherine et Nicolas, on s'est dit, ok, si c'est nul, on part tout de suite. Et au final, c'était nul. Mais franchement, je me suis super marré. Et c'est un film, je trouve, c'est pas ce que je vois étrange, parce que c'est pas un bon film. Mais j'étais content de voir ça après 4 jours de films assez normaux, on dira.
Tu peux rappeler le titre
hein? We are the Flesh. En espagnol, Tenemos la carne. et donc, c'est un film qui est effectivement très étrange. Peut-être trop étrange, parce que c'est du coup, il sonne un peu faux dans sa volonté d'être étrange. Ça parle dans un Mexique à peu près post-apocalyptique, ou du moins c'est ce qui nous font croire. Un couple de frères et sœurs qui arrivent dans la maison d'un espèce de vieux barbu un peu flippant, qui va les dominer de plus en plus, qui va avoir des rapports très intimes et très étroits, très pervers avec la fille, et ensuite avec carrément les deux frères et sœurs. Après il y a de l'inceste, on part sur des trucs avec du sang, sur des orgies, ça part d'une espèce d'explosion de SM dégueulasse, très incestueux, très bizarre, avec plein de choses extrêmement qui se veulent perturbantes, qui ne sont pas vraiment parce que le réel essaye trop. Mais franchement, le réel se regarde filmé et il y a beaucoup de choses très mauvaises dans ce film. Mais au final, je trouve que parler de ce film, un peu rapport avec mon bilan de l'étrange, c'est que c'est peut-être parce que c'est ma première année où je suis accrédité, du coup, la première année où je vois plus de 20 films à l'étrange, j'ai trouvé de la sélection un peu terne. Dans le sens que beaucoup de films qui sont là, je sais pas pourquoi ils étaient là, des films comme The Neighbor, que je trouvais rien à faire dans un film comme L'Étrange, parce que c'est un film d'horreur américain très basique que j'ai déjà oublié le lendemain après l'avoir vu. Des films comme Officer Dom qui a priori sont très mal reçus, des films comme Dark Circus qui se voit à 100 lieues que ce film n'a rien à faire là.
Ils n'ont rien à voir nulle part en fait.
Et puis là, tu as ce film qui je trouve est à la fois regardable, qui est prétentieux, mais enfin moi je l'ai pas vu comme ça. J'ai trouvé une très bonne séance, on rigolait bien et à la fois c'était. Enfin voilà, moi je trouve que We Are the Flesh, c'est le film que je veux voir à l'étrange, pas en tant que bon film. Je veux voir ça à l'étrange, genre si tous les films moyens de l'étrange, voilà, c'est une expérience. À l'étrange, je vais voir des expériences. Ou alors, j'en ai une.
Ce film, c'est quand même de la pure branlette, mais dans tous les sens.
Mais dans tous les sens, mais
intellectuel, mais physique.
J'aime bien tout. Le film, moi.
Je suis content que quelqu'un aime ce film là, par moi.
Mais non, mais en fait, moi, je suis rentré dans le trip pendant un moment. Je me suis dit, fumer des gens dans une grotte avec des filtres dans tous les sens, ça n'a jamais été fait. Ouais, mais il m'a perdu au moment où il filme son héroïne, donc cette sœur là, qui pisse accroupie devant la lumière du soleil en disant une espèce d'incantation occulte. Et là je fais, non mais là tu vas trop loin, mec. arrête-toi 2 minutes.
Pas fixé ni le soleil ni
la lumière. Ouais.
En tout cas, We Are the Flesh, c'est un film étrange. Et cette année, l'étrange manquait de films étranges. Et c'est pour ça que je vais le dire, c'est un mauvais film, mais j'ai aimé un mauvais film, mais j'ai aimé We Are the Flesh. Voilà, j'assume, j'ai aimé We Are the Flesh.
Comme on est deux alors.
2,5
Ouais,
j'avoue. Non, lui, c'est pas. On sait jamais si c'est trop le pote.
Bon, bah, on donne rendez-vous à l'Étrange Festival l'année prochaine pour la 22e édition, Balou Bali 2. Et donc.
Un saut d'ocean.
Et un cadre maintenant, c'est aussi. Et un jour d'ocean.
Et du coup, plus de films étranges. Hein. Voilà, si c'est quelque chose qui. Qu'on peut.
Non.
Et Jodorowsky, qu'on espère être. Une aussi bonne santé l'année prochaine. Que, donc voilà, rendez-vous en 2017 et en septembre pour l'Étrange Festival et la nouvelle édition.